c'est toujours son amour, dont il nous a comblés en son bien-aimé. Donc je ne sais pas vous, mais là, ce que moi je comprends, c'est que non seulement il m'avait déjà choisi avant la fondation du monde, qu'il m'avait déjà... Mais c'est qu'en plus, il avait déjà payé, il avait déjà donné tout le cadre pour que je puisse être celle que lui dit que je suis. J'ai 60 ans, hein, il est temps que je l'apprenne. 61 même, je crois. Non, pas encore, en septembre. C'est mon mari qui en a déjà 61. Waouh ! Donc, il nous a choisi déjà d'avance. Mais non seulement il nous a choisi et puis il nous laisse tomber. Non, non. Et il donne déjà, il pourvoit, il a déjà planifié à l'avance. C'est David, je crois, qui avait enseigné là-dessus. Dieu, il pourvoit, il prévoit. Il ne nous a pas laissé tout seul, quoi. Il ne nous a pas juste laissé orphelins. Alors, rien que ça, déjà, moi, ça m'a... Alors, j'y suis revenue un jour, deux jours, trois jours. Et puis, je pense qu'on pourrait y revenir, bien sûr, beaucoup plus longtemps. En lui, alors ça, bien sûr, c'est la suite. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Le pardon des fautes, selon la richesse de sa grâce, qu'il nous a octroyé abondamment en toute sagesse et intelligence. Donc, la condamnation, la culpabilité, n'est-ce pas, ça vient pas du Père. Hein. Si vous n'en étiez pas encore convaincu, dans le regard du Père, il n'y a aucune condamnation. Parce que lui, il a déjà prévu l'agneau, et l'agneau est venu il y a plus de 2000 ans maintenant. Et il est ressuscité, il est en gloire. Donc le Père, lui... Il nous voit au travers de l'agneau et il nous voyait déjà bien avant. Mais du coup, mes amis, le tilt que ça a fait en moi, je me dis, combien y en a-t-il dehors qui, comme nous, Dieu a choisi depuis avant la fondation du monde et qui sont destinés à célébrer sa gloire, la gloire de sa bonté. Là, je me dis, waouh, ça change tout, hein. On vient pas brandir l'enfer, n'est-ce pas ? On vient brandir l'amour incroyable du Père. L'amour incroyable du Père qui cherche et qui attend ses fils et ses filles. Et donc voilà, simplement, j'aimerais qu'on aille un peu plus loin là-dedans. Alors bien sûr, mon dada maintenant, du coup, c'était faire des disciples, mais ça veut dire quoi ? Parce que là aussi, beaucoup d'encre a coulé. Mais si on regarde... Hein, on n'est pas encore allé trop trop loin. Et au début, moi, je me disais, ils feront de plus grandes choses que moi. Je me disais, Jésus disait ça. Je dis, bah oui, c'est certainement à cause des médias et tout et tout. Et puis quand, dans cette formation, on a regardé d'un peu plus près les chiffres de la multiplication de disciples par les 12 apôtres et ensuite ceux qui rentraient de la moisson au fur et à mesure, ça se compte en millions et plus de 15 en très peu d'années. Et là, j'ai fait, ah oui, ok. Ça vaudrait peut-être la peine d'aller voir un peu le modèle que nous donne Jésus, puisque c'est Jésus notre modèle. Mmh. Alors après, bien sûr, il y a de 11 à 14, en lui, nous avons aussi reçu notre part d'héritage. Et je crois qu'on ne va pas y venir aujourd'hui, mais ça, je pense, ça parle des appels particuliers qu'on peut avoir les uns et les autres, les territoires que Dieu nous donne. Hein, parce qu'il dit, nous avons reçu notre part d'héritage, nous qui avons été destinés d'avance, selon le projet de celui qui opère en tout, selon les décisions de sa volonté. Donc c'est lui en nous, hein. Ça on l'a vu plusieurs fois, c'est pas nous par nos efforts, c'est lui qui agit en nous, selon les héritages qu'il nous a donnés, selon les dons qu'il nous a donnés. Et à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons mis notre espérance dans le Christ. Donc pour l'héritage, pour y rentrer, il faut avoir mis notre espérance dans le Christ. Hein, si on met notre espérance dans nos propres forces, je pense que vous le savez tous, ou si vous ne le savez pas encore, vous allez bientôt le savoir, ça amène au désespoir. Hein, voilà. Mais parfois, il faut 40 ans pour arriver au désespoir de soi-même. Et n'est-ce pas, Moïse, c'était le cas, donc ça va. Moi, il m'en a fallu 40 aussi, c'est pas grave. Tout va bien, on a une éternité ensuite devant nous, c'est pas trop tard, c'est ça la bonne nouvelle. C'est d'avoir notre espérance en Christ pour notre héritage. Et bien sûr... Avec l'éducation chrétienne, nos jeunes vont y rentrer beaucoup plus vite et beaucoup plus tôt. Parce que nous, comme Moïse, on a été éduqués en Égypte. Mais je suis tellement encouragée par notre jeunesse et de voir qu'ils comprennent des choses que nous, nous n'avons pas comprises et qu'ils peuvent déjà les mettre en pratique. Ça, c'est l'espérance vraiment que nous avons aussi dans ces derniers temps. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, la bonne nouvelle de votre salut, en lui, vous êtes venus à la foi et vous avez été scellés de l'Esprit Saint qui avait été promis et qui constitue les arts de notre héritage pour la rédemption de ce qu'il s'est acquis afin de célébrer sa gloire. Alors, j'irai pas trop loin, mais les arts de l'Esprit-Saint, c'est aussi quelque chose d'énorme. Et pour ma part, ce que je vous disais tout à l'heure et que je comprends de plus en plus, c'est que tout ce que nous faisons pour le royaume, dans l'obéissance et dans l'amour, va perdurer, les amis. Va perdurer. Le ciel descend sur la terre. Alors, c'est de ça dont j'aimerais vous parler ce matin. Quelle relation y a-t-il entre le disciple et le royaume de Dieu, d'après vous? C'est une question très large, comme dirait Luc, mais ce n'est pas grave.
Le disciple, il sait que les cieux sont ouverts. Et puis,
attends, j'entends pas. Quoi?
Le disciple, il sait que les cieux sont ouverts parce qu'il est juste. Il sait qu'il est juste. Ouais. Et donc, là où il est, le royaume des cieux vient.
Alors, le disciple sait que les cieux sont ouverts parce qu'il est juste, et donc là où il est, le royaume vient. Oui. Alors, personne n'a raison, personne n'a faux. Je veux dire, chacun a une petite parcelle de révélation et ça se complète. Merci, Anne. Quelqu'un d'autre?
Le disciple, c'est celui qui suit Jésus.
Le disciple, c'est celui qui suit Jésus et qui marche dans ses pas. Parce que disciple, c'est pareil, hein, y a des disciples de plein de gens, hein, mais là, on parle des disciples de Jésus. Donc oui, ce sont ceux qui suivent Jésus et qui marchent dans ses pas. Merci Huguette. Le disciple ne fait rien sans Dieu, comme Jésus n'a rien fait sans le Père. Oui. Merci Alexandra. Le disciple sait que le royaume n'est pas de ce monde. Et le disciple est appelé à annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Merci, je crois qu'on a déjà eu pas mal de choses. Alors, qu'est-ce que le royaume de Dieu incarné sur la terre? Nous en parlons beaucoup aujourd'hui, n'est-ce pas? Ça fait partie de la vision de l'Église, je crois, hein, qui accompagne des fils et des filles pour incarner le royaume, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que c'est que le royaume? Alors, dans un royaume, il y a un roi. Et ce roi, nous savons tous qui il est.
Jésus.
Jésus est le roi des rois. Et dans tout royaume, il y a une constitution et des sujets. Ouais, il y a des sujets, absolument, des citoyens. Il n'y a pas de royaume sans citoyens, ou alors c'est un royaume qui risque pas d'avoir beaucoup d'influence. Hein. Pour avoir de l'influence, il faut quand même qu'il y ait des sujets. Et il y a une constitution. Il y a des règles dans un royaume. Il y a des droits et il y a des devoirs. Ça, c'est la définition d'un royaume. Et dans Matthieu 6, 33, il nous est dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, sa constitution, et toute chose vous sera donnée par-dessus. » Alors là, quelqu'un disait tout à l'heure, le disciple, il sait que son royaume n'est pas de ce monde. Oui, donc, ça veut dire que nous n'allons pas copier ce monde dans notre façon de faire les choses. Ça ne veut pas dire qu'on est hors du monde, n'est-ce pas? Mais ça veut dire que notre royaume est défini autrement que par le monde. Il n'est pas défini par le monde. Il est défini par les cieux, par Jésus, par la parole. Donc, ton appel est de faire des disciples, comme l'a dit très bien quelqu'un tout à l'heure. C'était toi. Car faire des disciples, c'est former des citoyens pour le royaume de Dieu. Alors, ce qui est magnifique, c'est qu'en éducation chrétienne, on les forme déjà tout petits. Et ça, ça porte un fruit qu'on ne peut pas calculer. C'est tout simplement énorme. Et son royaume va venir dans nos régions par des citoyens qui suivent les règles instituées par Dieu. Et donc, pas dans notre bocal, mais dans tous les endroits où Dieu va nous emmener. Je pense à Werner qui est dans l'agriculture. Je pense à Jean-Marc qui lui est dans l'industrie. Je pense à ceux qui sont... je pense à Timothée qui a son entreprise. Voilà, ceux qui sont à la retraite, pareil. Hein, on a aussi des règles que l'on va suivre. Hein, où on ne dépend pas de notre retraite, mais de ce que Dieu fait. Bref, on a chacun... Là où nous sommes, nous allons être des hommes et des femmes d'influence. Là où nous sommes, nous faisons une différence dans le bon ou dans le mauvais. Nous sommes tous des êtres d'influence. Nos paroles ont du poids, d'un côté ou de l'autre. Et souvent, l'ennemi nous accable, oui, tu vaux rien, t'es rien, t'es pas. C'est faux. C'est faux. Nous avons du poids. Choisissons simplement de quel côté nous voulons être. Ainsi, faire des disciples est une urgence absolue, car par nos actions, nous détruisons les actions qui sont faites dans la justice, dans la parole, dans la façon de faire de Dieu, détruisent les œuvres des ténèbres. Donc c'est important de faire des disciples et des citoyens. Alors bon, très bien. Et quelle est la volonté du Père ? Amen. Que tous soient sauvés et viennent à la connaissance de
Jésus.
De la vérité. Et la vérité, c'est qu'ils sont aimés, déjà attendus, que le Père a déjà pourvu en Jésus pour faire d'eux des fils et des filles co-héritiers et pour régner avec lui. Mais comment les gens vont-ils savoir qu'ils sont comme ça attendus, prédestinés par le Père, si on ne leur annonce pas? Ils ne pourront pas. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous. Parce qu'on nous a dit souvent, voilà, on imagine l'évangélisation, les grandes tentes et tout ça, on n'a vu qu'une seule façon en fait. Mais dans le mot annoncer, il y a trois mots. Alors désolé, hein, je n'ai pas été revérifier exactement le mot en grec, mais bon, je l'ai noté à l'oreille. Il y a le mot kérusso, qui veut dire proclamer, publier. Alors ça, on l'a vu avec les grands évangélistes. Mais il y a l'aléo, ou kaléo, je pense que c'est l'aléo, qui veut dire parler, raconter, dire, partager. C'est trop cool ça. Je pense que ça, on peut tous le faire, n'est-ce pas ? Raconter, partager, dire. Je sais que Marguerite le fait énormément dans sa maison avec Heinz. Et ensuite, il y a euguelizo qui est évangéliser, c'est annoncer une bonne nouvelle. Donc il y a de la place pour chacun, pour tous les différents caractères. Ceux qui sont plus exubérants, qui n'ont pas peur d'aller sur les places et d'annoncer très fort et très haut, qui vont aller sur les quais de métro, qui vont crier partout. Et il y a ceux qui, en revanche, vont faire plus du 1-1, qui vont être plus discrets, plus dans la profondeur et du coup plus dans l'accompagnement aussi. Il y en a pour tous les goûts, mais ce qui est important, c'est que la parole soit annoncée. Et donc, bien sûr, Jésus est notre modèle, on l'a entendu tout à l'heure. Donc on voudrait simplement voir qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus. Alors la vision, sa vision, elle est dans Matthieu 6, pour ceux qui veulent le prendre, c'est simplement le Notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On va déjà s'arrêter seulement là, parce que c'est déjà énorme. Alors, vous savez que c'est la première fois qu'il y a le terme « notre Père ». Hein? C'est la première fois. Donc là déjà, la vision de Jésus, c'est qu'il y a un Père et des fils et des filles. Pour lui, c'est déjà très clair. D'entrée de jeu, il dit « notre Père ». Il nous a déjà inclus. Et ensuite, il dit « qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». Et là, en méditant là-dessus, finalement, je crois que j'ai trouvé quelque chose, pour moi, pour le moment en tout cas, qui répond mieux à ma question. Que son nom soit sanctifié, pour moi, c'est-à-dire que son nom soit mis à part, c'est-à-dire que toute la gloire lui revienne. Et quand il dit que ton nom soit sanctifié, je pense que Jésus, déjà, il disait « tout ce que je fais, ça va être pour ton nom ». Pour que ton nom soit sanctifié, pour que ton nom soit honoré, pour que ton nom soit élevé. Je vous rappelle Moïse, hein, quand il a tapé le rocher devant le peuple et qu'il s'est énervé et c'était pas du tout ce que le Père voulait, ça lui a coûté cher. C'est-à-dire vraiment que son nom soit sanctifié, que ce que nous faisons ce soit pour sa gloire, que son nom soit sanctifié, qu'il soit à part, qu'il soit seul, qu'il soit élevé. Donc ça c'est, je me dis waouh, et que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite. Alors que ton règne vienne, on a vu comment il vient le règne ?
Par nous.
Par nous, au travers de disciples, voilà. Et que ta volonté soit faite, sa volonté c'est, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, que tous soient sauvés. Pardon ?
Qu'ils deviennent disciples,
bien sûr. Et que son royaume s'établisse avec ses principes. Que son règne s'implante avec sa vision des choses, avec sa bienveillance, avec ses valeurs. Et ça change tout avec le prendre soin des faibles, prendre soin de la veuve, prendre soin des handicapés, prendre soin des enfants. C'est ce que font ceux qui travaillent dans les écoles chrétiennes, ceux qui travaillent dans les EHPAD. C'est prendre soin de sa famille, prendre soin de ses parents, prendre soin des enfants, de nos enfants. Ça, c'est son royaume qui est complètement aux antipodes de ce que l'on peut nous annoncer aujourd'hui dans les médias. Et donc, c'est la prière de Jésus que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, son objectif, c'est que le royaume de Dieu vienne sur la terre et que la volonté du Père soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, comment a-t-il commencé son ministère? Qu'est-ce qui s'est passé juste avant? Le désert, mais encore avant ça,
le baptême.
Et qu'est-ce qui s'est passé au moment du baptême? Plusieurs choses se sont passées à ce moment-là. Le Saint-Esprit est descendu et est demeuré sur lui. C'est la première fois. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit venait que ponctuellement. C'est la première fois, et c'est pour ça qu'il savait que c'était le Fils de Dieu, parce que le Saint-Esprit est descendu et il a demeuré sur lui. Et quoi d'autre? Il y a eu quelque chose avant ça. La proclamation du Père qui dit « Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Donc Jésus, d'abord, il a entendu le Père dire « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et ensuite, il a été revêtu du Saint-Esprit. Donc, s'il est notre modèle, est-ce que nous, on pourra s'en passer de ça? Pas vraiment, n'est-ce pas? On est d'accord. Et si on regarde un peu comment Jésus a fait, donc en dehors du désert, après, une fois qu'il est sorti du désert, qu'il a résisté, qu'il a triomphé, qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qui était tellement inhabituel et que les disciples avaient du mal à comprendre, et parfois ils venaient le chercher?
Il priait son Père dans les lieux
isolés. Il priait son Père chaque jour dans des lieux isolés. Donc oui, il y a un monde à gagner, mais pas à n'importe quel prix. On ne renonce pas à l'intimité avec le Père. Et si Jésus a pu faire ce qu'il a fait, c'est parce qu'il avait ces temps d'intimité chaque jour. Il recevait du Père, vous savez, quand il dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté du Père. » Alors, je réfléchissais un peu, vous diriez ça comment autrement? « Ma nourriture, c'est de faire la volonté du Père. » Oui, d'entendre ce que le Père dit, l'écouter et ensuite le mettre en pratique, bien sûr.
Ma vie,
c'est faire la volonté du Père. Ma nourriture, donc ma vie, c'est-à-dire moi, ma vie, c'est faire sa volonté. C'est pas juste un jour oui, un jour non. La nourriture, c'est tous les jours, donc ça veut dire toute ma vie, c'est faire sa volonté. Donc, ok. Alors maintenant, c'est quoi, d'après la Bible, la définition du disciple? Alors, on en a une dans l'Ancien Testament. Alors, je ne sais pas, je ne vais peut-être pas vous laisser vous y essayer. Moi, j'avoue que quand on m'a posé la question, je n'ai pas été bonne du tout. Mais bon, c'est quoi être disciple? Si, allez, je tente quand même, parce que vous n'êtes certainement pas aussi. Alors. Pardon?
Suivre le modèle.
Oui, suivre le modèle. Amen, ouais.
Écouter les instructions et les mettre en pratique.
Écouter les instructions et les mettre en pratique. Amen. Oui, être enfant de Dieu. Imitateur. Amen. Eh bien, dans l'Ancien Testament, c'était obéir aux commandements. Mais moi, j'ai un de mes petits-fils qui avait dû faire ça en 6e. Il devait avoir tous les commandements. Et je lui ai dit, tu sais que Jésus, dans le Nouveau Testament, il nous a dit qu'il y en a deux qui les résument tous. Tu les connais? Il dit, bah non, non, mamie, c'est quoi? Et donc, il dit simplement, Jésus nous dit que toute la loi se résume en deux commandements. C'est dans Matthieu 22, 36, 40. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier commandement. Et le second, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, il y en a qui disent, ouais, mais il faut d'abord être guéri. Et puis en fait, ils ont répondu non. Quand tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, il te guérit. C'est pas la peine d'aller chercher le midi à 14h et de passer beaucoup de temps de nombrilisme en cherchant Dieu. Il nous guérit, il nous parle. C'est ce miroir de sa parole qui nous montre qui nous sommes. Et alors, on met en pratique, on renonce à tous les mensonges. On laisse les mensonges qui ont empêtré notre vie intérieure être consumés, dépollués. Mmh. Et dans ces commandements, dans ces deux commandements, dépendent toute la loi et les prophètes. Donc ça, c'est un, c'est l'Ancien Testament, et puis Jésus nous le résume bien. Et le deuxième, c'est le grand mandat que nous avons dans Matthieu et que Alain Rindel nous rappelle bien souvent. C'est aller, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre, aller, faites des gens de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ça, c'est la force du modèle, et Paul dit, soyez mes imitateurs. C'est ce que nous disait Denis tout à l'heure. Alors que nous imitons Jésus, d'autres vont pouvoir nous imiter. Et donc, pour moi, ce qui a été une révélation, qui m'a bien libérée, et qui, je pense, fera la même chose pour certains d'entre vous, ce n'est donc former des disciples, ça ne veut pas dire enseigner. Tous n'ont pas un ministère d'enseignement de docteur. Former des disciples, ça veut dire modeler par qui nous sommes. C'est donner l'exemple par notre vie. Et donc ça, c'est montrer aux autres comment obéir à Jésus. C'est pas « fais ce que je dis et pas ce que je fais », n'est-ce pas ? D'ailleurs, dans l'éducation chrétienne, on dit « si on veut que vraiment l'enseignement porte, il faut que la personne qui enseigne vive l'obéissance de ce qu'elle enseigne. Sinon, ça a beaucoup moins de poids. Il y a plus d'autorité quand ce que nous prêchons, nous le vivons. Et plus nous allons vivre la parole, plus notre autorité va grandir. » Et donc, c'est simplement modeler, c'est par qui nous sommes, et aider les autres à obéir aussi. Donc ma mission, montrer aux autres comment obéir à Jésus, comment le suivre, c'est par l'exemple. Comment aimer son prochain et faire des disciples. Et quelqu'un qui grandit dans son amour pour Dieu, il grandit dans son obéissance à Dieu. Quand tu grandis dans l'amour, tu grandis dans l'obéissance. Sinon, c'est un leurre. Tu te mens à toi-même. Il y a plein de versets qui disent ça. Celui qui dit qu'il m'aime et qui fait ce qu'il veut. Celui qui m'aime, c'est celui qui pratique mes commandements. Ça ne veut pas dire que parfois on ne fait pas des erreurs. Mais dès qu'on s'en rend compte, on demande pardon, on essaye de comprendre pourquoi on a fait ça. En tout cas, moi, c'est ma question. Quand je me rends compte que j'ai un comportement qui n'est vraiment pas top, je dis « Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi j'ai réagi comme ça ?» Et quand il me le montre, je fais ce qu'il y a à faire. Ou libérer le pardon, ou briser des liens, ou peu importe. Mais voilà, ça ne veut pas dire qu'on est dans le pullman et que tout va être rose, non. Mais c'est un choix. C'est notre choix. Mmh. Et donc, grandir dans son amour, c'est grandir dans l'obéissance. C'est-à-dire que l'on apprend, comme on l'a dit tout à l'heure, à écouter, mais ensuite croire. Et ensuite, mettre en pratique en faisant confiance au Saint-Esprit. Alors, vous en avez un beau fruit, c'est l'établissement d'Aliel. Parce que je peux vous assurer que quand Dieu nous a parlé de faire l'école, il n'y avait rien. Mais, on savait que c'était papa qui le disait, donc on l'a cru. Et ce n'est pas venu en un jour. Ce n'est pas d'une semaine à l'autre. Ça a bien pris 2 ans. J'ai eu toute l'année préparatoire, puis on a dû larguer les amarres, on a renoncé à notre travail. Parce que même si on ne voyait rien, on savait que c'était de Dieu. Donc c'était... Et j'avais l'habitude de dire, avant qu'on arrive au château, si le Seigneur a pu démarrer une école avec nous, il peut la démarrer avec n'importe qui, parce qu'on n'avait rien. Mais avec n'importe qui croit et qui obéit. Pardon ? Oui, et c'est jamais fini, c'est toujours encore l'école de chacun qui est dedans, autant pour les petits que pour les grands, n'est-ce pas les enseignants ? Surtout quand on a des ados, n'est-ce pas ? Quelle école ! Savoir voir au-delà des apparences, savoir que le prix a déjà été payé et puis pas leur rentrer dedans. Maintenant, malheureusement, c'est pas réservé que aux ados, hein. C'est parfois aussi difficile avec des plus jeunes, avec ce qui se passe dans le monde. C'est pas facile pour nos enfants et même pour les petits. Mais de pouvoir avoir cet amour conditionnel, cette confiance dans qui est le Père, et les enseigner avec patience, avec persévérance, leur montrant le chemin. Et vous savez, on a eu des retours, parfois les pires, qui reviennent après, qui disent merci, et que Dieu a transformé, que Dieu a conduit. Et voilà. Et ça, on peut prier que le Seigneur donne ce regard, qu'il nous donne toujours le regard que lui a. Et souvent, le regard que l'on pose sur nous-mêmes affecte le regard qu'on va poser sur les autres. C'est pour ça que ce temps d'intimité est tellement important, pour vraiment apprendre, comprendre, grandir dans cet amour filial avec le Père. Parce que plus on se sentira aimé du Père, sachant exactement d'où nous venons, alors nous pourrons aimer, sachant que ce qu'il a fait pour nous, il peut le faire pour eux. Et donc voilà. Et puis j'ai eu quelque chose qui m'a bien plu, ça s'appelle le baromètre de la maturité. Ça vous intéresse, le baromètre de la maturité? Il comporte 3 mesures. Alors, la connaissance de la vérité. Donc je vous rappelle, la vérité, elle est où? Dans la parole de Dieu. Donc celle-là, elle doit vraiment être notre livre, pas seulement de chevet, mais de la journée. La parole de Dieu. Et même si vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui passe, ne vous découragez pas, parce que c'est une nourriture qui touche nos esprits. Et à un moment donné, de toute façon, elle fait son œuvre. Donc ne nous décourageons pas et méditons-la, comme je vous disais tout à l'heure. Essayez de la dire au Seigneur, c'est fabuleux. Ensuite, c'est la on grandit dans la connaissance de la vérité. Ensuite, on grandit dans l'obéissance à la vérité. Parce que si je la connais, mais que j'en fais rien, malheureusement, ça fait de la religiosité. Hein. Si on n'obéit pas, il n'y a pas de vie. Ça devient des jugements. Et ensuite, c'est le partage de la vérité. Donc, où est-ce qu'on en est dans chacun de ces... Alors, pour les profs, évidemment, hein, ils sont un peu favorisés, parce que ceux qui ont déjà trouvé leur vocation, c'est sûr. Hein, en tout cas, on dit bien aux profs qu'ils ont intérêt à baigner dans la parole. Parce que sinon, ça n'aura pas le même impact, quoi. Mais un prof qui, effectivement, a un baromètre avec ses 3 mesures équilibrées, la connaissance de la vérité, l'obéissance de la vérité, le partage de la vérité, eh bien, ça fait un prof heureux. Ça fait un prof joyeux. Un chrétien heureux et joyeux, c'est celui qui grandit dans sa connaissance du Seigneur, dans son obéissance au Seigneur, et qui le partage. Donc, les profs, si vous n'êtes pas trop joyeux, dites-vous, ouf. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis laissé déborder par le programme. Oh mince! Seigneur, désolé, mais si t'es pas là, il n'y a rien à faire. Hein. Ça ne va pas le faire du tout. Donc je vous encourage. Et ne vous dites jamais, ouais, mais après j'aurai plus le temps. Je peux vous dire le témoignage de Luc quand il s'est converti. Il était en maîtrise de philo, hein, c'est ça? Et je me souviens. Alors moi j'allais le voir tous les midis. Et puis il me dit, écoute, j'ai passé ma matinée à lire la Bible. Je ne peux pas faire autrement. Tu crois que c'est bien? Je dis, écoute, si ça te fait du bien, oui, hein, c'est bien. Hein. Et vous croyez qu'il a eu des problèmes pour passer ses examens? Non. Et c'est pas qu'il n'a pas travaillé parce qu'il voulait aller faire n'importe quoi, non. C'était la parole. Et puis on a sa sœur, sa petite sœur, Odile. Le nombre de fois où elle a plus pris de temps pour aller aider un handicapé ou quelqu'un qui était sourd ou aveugle. Et à chaque fois, elle mettait en priorité les autres. Pareil, elle disait, mais c'est presque honteux que je puisse avoir eu tous mes examens. Elle disait, mais j'ai pas assez travaillé. Bon, voilà, ça, en France, on est très fort. Hein. Je me souviens quand Raphaël était au lycée DEC, ils m'ont demandé à me voir, me dit, écoutez, Madame Bussière, ça va pas du tout, vous rendez compte, il est en S. Hein. Donc la musique et le sport, hein, il faudrait peut-être qu'il arrête. Hein. Parce que c'est sérieux, S. Alors j'ai dit, oui, vous ne savez pas à qui vous parlez. Oui, merci beaucoup, au revoir. Et c'est allé au point qu'elle faisait croire que si il n'allait pas avoir le 100% au bac, ça serait à cause de Raphaël. Raphaël a continué la musique, il était excellent en piano, il a continué le ping-pong, il était excellent en ping-pong, et il a eu la mention bien au bac. Amen. C'est la présence de Dieu en nous qui fait la différence. Ne l'oublions pas et ne croyons pas les mensonges qui nous sont véhiculés et qui m'énervent profondément. Voilà. Donc...
Matthieu 28, 19, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Saint-Esprit et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Alors bien sûr, c'est pas toute une liste de devoirs. Ça doit découler de notre relation avec le Père, avec le Fils et avec le Saint-Esprit. Et quand on obéit simplement au Saint-Esprit qui nous envoie, on ne sait pas ce que l'on va donner. Mais il nous envoie, alors on va. Et qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Il est allé, il a aimé d'abord. Et aimer, ben, c'était guérir, c'était prier pour les malades, c'était enseigner, c'était donner du pain, multiplier le pain. Les temps vers lesquels nous allons, on aura besoin des miracles. Et c'est ce que Dieu veut faire. Et il va le faire avec ses fils et ses filles, qui viennent, qui l'écoutent, qui obéissent. Et chacun pour notre part, selon le mandat qu'il nous aura donné, il va être différent. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas se comparer. Et pour ne pas se comparer, il suffit d'aller au Père et de recevoir de lui qui nous sommes et ce que nous sommes appelés à faire. Et simplement quelques principes universels, et je vais finir par là pour aujourd'hui. Je ne sais pas l'heure qu'il est. Oh oui.
Mais dis-moi le cœur.
Alors juste quelques, je ne vais pas vous les lire. Hein. Donc nous sommes tous des formateurs et pas tous des enseignants. Hein, je crois que ça, pour moi, c'était super. Nous sommes tous des formateurs. Mais pas tous des enseignants. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas travailler la parole et se nourrir de la parole. Hein, ce n'est pas juste parce qu'on enseigne qu'on travaille la parole. On la travaille parce qu'on le découvre, lui, au travers de sa parole. Ensuite, nous sommes centrés sur l'apprentissage à écouter Dieu dans sa parole. Car elle est l'autorité ultime. Mmh. Et nous dirigeons des projets, mais pas des gens. Nous ne sommes pas là pour diriger des gens ou contrôler des gens, non. Nous devons leur apprendre à se nourrir par eux-mêmes, sans intermédiaire, qu'il n'y ait pas de dépendance. Tu dois faire ci, tu dois faire ça, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Alors là, ça c'est pas le royaume de Dieu, je peux vous l'assurer. Ensuite, on doit être fondé dans la grâce. C'est le centre de l'évangile, c'est Éphésiens 1 qu'on a vu tout à l'heure. Vraiment fondé dans la grâce. Donc on ne se désespère jamais, parce qu'on se souvient qu'il nous a choisis bien avant la fondation du monde et qu'il a déjà tout donné pour qu'on puisse y aller. Et c'est centré sur l'obéissance, bien sûr. Il faut toujours l'obéissance qui suive la révélation pour porter du fruit, sinon nous devenons des religieux. C'est ce que je dis et pas ce que je fais, et ça c'est mort, il n'y a pas de vie, c'est perk. Des connaissances, mais pas de vie de l'esprit. Ah non, ça a mauvais goût et je crache. Éloignez-vous de tels enseignements, on n'en veut pas. Un autre point, la redevabilité. La redevabilité nous pousse à l'obéissance. C'est bien si on prend une décision et tu le partages avec quelqu'un et tu dis tu me redemanderas hein, si je l'ai fait. Et simplement pouvoir avoir des vis-à-vis, c'est tellement précieux d'avoir des vis-à-vis. Et c'est pas vraiment au goût du jour, et pourtant, ça fait partie et ça nous aide à la croissance. L'apprentissage les uns par les autres. Il n'y en a pas un seul hein, qui a tout reçu de Dieu et qui sait tout, parce qu'alors là c'est pareil, c'est pas l'évangile. C'est pas comme ça que le Seigneur a fait. Hein. Vous allez voir un peu dans les épîtres. En fait, il nous dit soyez soumis les uns aux autres, considère l'autre comme supérieur à toi-même. Ça veut dire tout simplement t'es pas tout seul, hein. Tu sais pas tout. Non. Écoute ce que les autres ont reçu. Et ça, c'est la chose incroyable du Seigneur. Il permet que chacun, nous ayons une partie de la révélation. Mais personne n'a toute la révélation. Et c'est tous ensemble que nous avons la révélation de qui est Dieu, qui nous amène à la connaissance. Il y a le « nous » toujours hein, dans l'Évangile. « Nous », c'est « ensemble ». Ensemble. Alors en France, on a été tellement séparés les uns des autres, et puis le Covid est venu en rajouter. Mais prenons du temps pour partager la parole ensemble. C'est tellement fortifiant et c'est tellement... Déjà, ça nous encourage parce qu'on se rend compte que le Seigneur nous parle aussi. Et que voilà, c'est pas du... Il y en a un qui vient et qui enseigne et qui sait tout. Et puis toi, t'es juste là à devoir écouter ingurgiter. Non, ça n'est pas l'évangile. Et comment voulez-vous former des disciples si vous fonctionnez comme ça? C'est pas possible. Du coup, on reste à chauffer nos chaises et ça n'avance pas. Donc voilà, c'est pour moi, pour ça que je me dis déjà d'avoir compris que faire des disciples, c'est pas enseigner et tout savoir. C'est former notre obéissance, ce que l'on sait, le partager et simplement annoncer. Et ensuite, une chose que je commence à découvrir, c'est que tout est basé sur les questions. Moi, j'étais toujours celle qui avait la réponse à tout, qui savait toujours tout. Et je me suis dit, waouh, je ne sais pas d'où ça vient, ça. Mais quand je voyais les gens qui posaient des questions à Dieu, je dis, bah mince, moi, je n'en pose jamais. Et je pense que ça vient de très, très loin, de mes ancêtres. Parce que je sais que j'ai des racines juives. Et je crois qu'à un moment donné, on a dû se sentir tellement abandonné qu'on ne posait plus de questions, on se donnait surtout des réponses pour se rassurer. Alors, ne nous rassurons pas en donnant des réponses à tout, mais posons des questions, parce qu'en fait, poser des questions, ça permet de dévoiler les mensonges qui sont dans nos cœurs. Parce que nos présupposés, par exemple, un enfant abandonné, ou même dans des situations difficiles, il en vient à la conclusion que, ben, il est tout seul. C'est faux. Donc, poser des questions. Mais ça, il nous faut toute la sagesse du Saint-Esprit pour savoir quelles questions poser, apprendre à poser des questions. C'est tout un art qu'il va falloir que je découvre. Et sachant qu'on n'est pas obligé de donner des réponses, mais laisser le Saint-Esprit y répondre. Et il n'aura pas la même réponse pour chacun. Et ensuite, un processus intentionnel et régulier. Pour les gens aléatoires comme moi, c'est pas simple non plus. Pour que les systèmes de pensée soient changés sans créer la dépendance. Et ensuite, se tourner vers les autres dès le début, apprendre à bénir et à partager. Et donc, être un disciple, c'est aimer Dieu, aimer son prochain, obéir à sa parole et apprendre à d'autres à aimer Dieu, à aimer son prochain et à obéir à sa parole et qu'eux-mêmes puissent l'apprendre à d'autres. Et si ça, on arrive à le faire sur 4 strates, vous avez un mouvement.
Génération.
Quoi ?
Génération.
4, non, pas des générations, 4 strates, c'est-à-dire parce que ça peut être des gens même plus âgés que moi. Oui. Mais que moi, je l'ai fait avec quelqu'un, qui lui-même l'a fait avec quelqu'un, qui lui-même l'a fait avec quelqu'un. Quand on en arrive à ça, ça devient un mouvement et c'est puissant. Il y en a je ne sais plus combien dans le monde, mais c'est assez phénoménal. Je peux vous dire que c'est le temps du réveil, c'est le temps de marcher avec Dieu, c'est le temps de marcher par l'Esprit, c'est le temps de marcher dans l'obéissance. Et si on tombe, ce n'est pas grave, on se relève, on demande pardon. Dieu n'a pas cherché des gens parfaits, il cherche simplement des gens qui obéissent, qui l'aiment, qui le cherchent et qui aiment. Voilà. Seigneur, je te rends grâce parce que tu es bon. Tu sais où on en est chacun d'entre nous. Cher Saint-Esprit, apprends-nous, apprends-nous. Merci parce que tu nous as sortis de nos bâtiments. Parce que tu veux élargir notre perspective. Parce qu'il y a un monde qui t'attend et qui a faim et soif. Merci parce que tu veux consumer en nous tout reste d'esprit d'orphelinat. Mais tu veux vraiment nous affermir en tant que fils et filles dans ton amour, dans ta bienveillance, et tu veux nous apprendre à être ces pêcheurs d'hommes et de femmes et d'enfants. Seigneur, fais de nous, Seigneur, ces disciples amen, qui sont précautionneux, impressionnants de Jésus. Et merci, nous voulons accueillir, Seigneur, merci parce que tu nous as dépouillés, et nous te rendons grâce pour cela, parce que tu voulais nous ramener à l'essentiel. Et Seigneur, on ne veut pas juste faire des choses pour faire des choses. On veut marcher derrière toi et voir ta puissance de vie se répandre et voir ton royaume venir et comprendre quelle est notre part, chacun, et nous tenir dans la part que tu nous donnes pour la gloire de ton nom, pour l'avancement de ton royaume. Et apprends-nous, Seigneur, à ne pas recevoir les honneurs, mais à toujours te les redonner à toi. Car nous n'avons aucun mérite, mais tous les mérites te reviennent. À toi l'honneur et la gloire.
Merci Seigneur.
Et cher Saint-Esprit, nous avons besoin de plus de toi. Nous voulons apprendre à t'écouter encore davantage. Amen.
Amen. Amen.